Il y a évidemment des Camus combasiens ou des combas camusiens. Le premier Camus, qui est celui de Nos, par exemple, est nietzschéen. L'une des thèses de ce livre-là, c'est qu'il est nietzschéen du début jusqu'à la fin. Donc quand il meurt en janvier 1960 et que la Facel Vega s'en va dans la nature, on retrouve dans son cartable le manuscrit du premier homme, le livre qu'il est en train d'écrire, et le Gai Savoir, livre de Nietzsche. Donc c'est quelqu'un qui n'a cessé de penser le nietzschéisme. Je disais tout à l'heure que Robert était nietzschéen, en ce sens, moi aussi, il y a une communauté entre les nietzschéens, je dirais. Il y a cette capacité de comprendre la nature, de saisir la nature, d'interroger la nature, de peut-être même faire l'économie du livre, de la culture, de la bibliothèque, de tout ce qu'on a pu apprendre, pour aller directement dans la nature. Si vous lisez Nos Atypaza, par exemple, vous avez un Camus qui fait en 6 pages, dans les éditions de la Pléiade, ça fait 6 pages, c'est rien, mais c'est d'une densité, c'est un grand poème présocratique. Expérience du panthéisme. Tu as parlé tout à l'heure de Dieu, Dieu pas Dieu, une demoiselle qui réagissait à Dieu, etc. Dieu pas Dieu, Dieu gentil, méchant, etc. On est dans une perspective panthéiste. C'est-à-dire que si Dieu existe, il est identifiable à la nature. C'est la même chose, c'est ce qu'il nous a dit, Deus sive natura, Dieu ou la nature. À chaque fois que vous lisez Dieu sous mon texte, ma plume, dit Spinoza, comprenez la nature, et quand vous lisez la nature, comprenez Dieu. La peinture de Robert, elle est dans ce sens panthéiste. C'est une peinture panthéiste, c'est une pensée, c'est une peinture camusienne en ce sens aussi, ce Camus-là. Celui qui nous dit, il y a les asphodèles, il y a le ciel, il y a le soleil, il y a la plage, il y a la beauté des femmes, il y a les corps cuivrés, il y a la natation, il y a la menthe qu'on boit, le verre de menthe glacée qu'on boit quand on sort de l'eau, et il y a la pêche qu'on croque et qui dégouline sur le menton, il y a cette beauté des pierres qui brûlent, il y a le chant des cigales, il y a toutes ces choses-là, dit Camus. Et Camus dit, mais c'est ça la vérité du monde. Et si un Dieu existe, eh bien il est là. Il n'est pas le Dieu qui crée ces choses-là, il est ces choses-là. Et la peinture de Robert, c'est pareil. C'est une peinture panthéiste, ce sont des fragments du monde. Ce sont des espèces de morceaux découpés dans le monde qui sont présentés comme ça. Donc je disais, il y a plusieurs Camus, non, moins deux. Il y a ce Camus d'avant la guerre, qui était doniste, qui est l'homme de Nos Atypaza, donc de la beauté de la nature. Ce serait un Camus coloré, je dirais, pour envoyer à Robert. Ce serait dans Robert tout ce qui est chromatique, tout ce qui est vibration, tout ce qui est ondulation de la lumière, sculpture de la lumière, ou travail à partir de la lumière. En ce sens, oui, il y a une proximité entre Robert et Camus. Il y a un deuxième Camus qui tâche d'être hédoniste encore. Nietzsche nous dit, la grande formule du surhomme, elle est très simple, c'est savoir que la volonté de puissance, c'est la vérité du monde. Vous savez désormais ce qu'est la volonté de puissance, c'est ce qui fait de la plante qu'elle s'en va chercher toujours plus de lumière et qu'elle joue de la lumière quand elle est à la canopée, quand elle est au sommet de la jungle. Donc la volonté de puissance, nous dit Nietzsche, c'est ça. Il n'y a qu'une seule substance diversement modifiée et une seule force. Robert parlait tout à l'heure de cette énergie qu'il captait, qu'il parvenait à capter, à dompter pour la raconter avec des couleurs, des dessins, etc. Eh bien, Nietzsche nous dit, la volonté de puissance, c'est la vérité du monde. On n'a pas le choix, on n'a pas de libre arbitre, on ne dit pas, je veux plutôt ceci, je veux plutôt cela. Quand Robert dit tout à l'heure, je suis peintre, voilà, mais on ne le choisit pas, on ne dit pas un jour, j'ai envie d'être peintre, on découvre qu'on l'est, et qu'on est requis par plus fort que soi pour devenir peintre, parce qu'on a des choses à dire. Et Robert disait, ben voilà, j'ai tout lâché pour ça, parce que c'est ce qui me requiert absolument. Il est peintre. Dans la philosophie classique, on dirait qu'il se choisit peintre, il se veut peintre, etc. Non, pas du tout. C'est-à-dire la volonté de puissance requiert Robert Combas pour qu'il devienne le peintre que nous sommes. En ce sens, il reste camusien. Il est camusien, parce que Camus nous dit aussi qu'il est requis comme ça pour la philosophie, franchit la Méditerranée, il y a la guerre, l'occupation, la tuberculose, pour lui, il faut changer de climat un peu, donc il arrive en Europe. Et pour lui, l'Europe, c'est le nihilisme. C'est-à-dire le contraire de l'Algérie. L'Algérie, c'est le soleil, c'est la Méditerranée, c'est la culture brutale et barbare, au bon sens du terme. C'est-à-dire, il dit, voilà, nous, les Méditerranéens, on a un rapport direct, en ce sens, il est, mais comment, le Camusien, en tant que Méditerranéen? On a un rapport direct à la nature, la Méditerranée, et puis l'Europe, elle nous demande d'oublier le rapport à la nature pour avoir un rapport à la culture. Dès que vous avez eu le monothéisme, un seul dieu, les autres dieux ont été congédiés. Les dieux d'avant, le polythéisme, vous invite à voir le monde. Vous avez un dieu de la foudre, vous avez un dieu de l'amour, vous avez un dieu de la fertilité, un dieu de la fécondité, un dieu de l'amour, un dieu de la guerre, etc. Puis un jour, on dit qu'il y en a qu'un. Et c'est le dieu des Juifs. Et après, ça devient Dieu des chrétiens, puis après, ça deviendra Dieu des musulmans. Et à partir de ce moment-là, il y a une violence intrinsèque au monothéisme qui fait que tout ce qui n'est pas ce Dieu-là, on détruit, on massacre. Et nous sommes sous ce régime-là. C'est-à-dire qu'un méditerranéen est un pré-monothéiste, en ce sens, Robert est un pré-monothéiste, c'est quelqu'un qui est un polythéiste, qui est un panthéiste, qui peut donc parler de Dieu, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le Dieu des monothéistes. Et les monothéistes nous disent, maintenant, il va falloir lire le monde dans les livres. Arrêtez de lire le monde directement, arrêtez de regarder le soleil, le ciel, les étoiles, la lune, arrêtez de capter les odeurs de la nature qui vous montrent qu'on est au printemps, ou qu'il a gelé, ou que ce genre de choses. Arrêtez de questionner le monde, la vérité du monde est dans les livres, est dans un livre. Elle est dans un livre, elle est dans le Talmud, elle est dans le Nouveau Testament, ou elle est dans le Coran. Et Camus se retrouve dans une Europe qui est une Europe monothéiste, pas panthéiste. Comment est-ce qu'on reste nietzschéen dans cette aventure? Nietzsche dit, il faut dire oui à tout. Le grand oui à la volonté de puissance. Je suis requis par quelque chose de plus fort que moi. J'ai pas le choix, faut dire oui, dit Camus. La vérité du monde, c'est ça. Le surhomme, ça marche pour les femmes aussi, hein, c'est le surhumain, consiste à dire, je sais qu'il y a de la volonté de puissance. Je sais que je n'ai pas le choix. Je sais que les choses se répètent éternellement. Je veux ça. Amor fati, dit Nietzsche en latin, amor fati, aime ton destin. Et quand j'ai compris qu'il me fallait aimer mon destin, alors je découvre une béatitude, et cette joie-là, c'est la joie nietzschéenne. Et lui, il se dit, est-ce qu'on peut dire oui à tout quand il y a Franco au pouvoir, Mussolini au pouvoir, Adolf Hitler au pouvoir, et que par la suite, on découvre les chambres à gaz, les camps de concentration, la Shoah, etc. Comment peut-on rester nietzschéen dans cette aventure? Donc je n'oublie pas la question. Il y a un premier Camus, il est hédoniste, il est méditerranéen, en ce sens, Robert est tout à fait dans la logique de Camus, il est camusien sur ce premier terrain-là. Le second Camus, c'est celui qui dit, on ne peut pas dire oui à tout. Il faut dire non à ce qui ne dit pas oui à la vie. D'où l'homme révolté. L'homme révolté, c'est l'homme qui dit non. Et on dit non à ce qui dit non à la vie. Il faut dire non à ce qui dit non à la vie. Et à ce moment-là, il y a un autre Robert qui apparaît, c'est celui qui peint la guerre, les catastrophes, et qui peint ces choses-là depuis la mythologie, qu'il revit, qu'il revoit, les grandes scènes de mythologie, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'est une peinture éminemment cultivée et éminemment culturelle, il y a des références considérables à toute la mythologie, et les combats. Et puis ça va jusqu'à des toiles les plus récentes, il y a des toiles sur l'Irak, il y a un Ben Laden qui est assez sidérant, qui n'est pas à la même exposition, mais... Robert peint la guerre, c'est-à-dire la volonté de puissance qui veut le contraire de la vie, qui veut la mort. Qu'est-ce qu'on dit à ça? Qu'est-ce qu'on dit à Thanatos? Comment est-ce qu'on s'y prend quand on est hédoniste, nietzschéen, camusien en ce sens? Eh bien, on se bat pour dire non. C'est-à-dire, on se bat pour dénoncer. En ce sens, on reste hédoniste parce qu'on dit toujours, oui à la vie. Et il n'y a pas de peinture, mais là, je parle sous ton contrôle, mais je pense que. Il faudrait vérifier, mais il n'y a pas de peinture chez Robert où il n'y ait que la mort quand il y a la mort. Et il y a aussi du sexe, de la présence du sexe qui est là, comme dans une tauromachie où l'avers et le revers de la même médaille sont là. C'est Eros et Thanatos, c'est la jouissance dans le sexe, mais il y a la mort aussi. Et regardez, je ne suis pas un freudien, ça c'est un peu, mais je vais regarder tous les glaives, toutes les lances, tous les fusils que les freudiens persistent à voir comme des phallus. Ce sont quand même des instruments qui fonctionnent, au sens qu'on voit bien, mais qui fonctionnent comme un phallus, comme le sang et le sperme entretiennent une relation. En ce sens, le Freud qui plaît pas beaucoup aux freudiens, mais c'est celui qui me plaît, le Freud des années 20, qui parle de la pulsion de mort en disant que c'est la biologie qui dit la vérité, et c'est pas l'inconscient. L'inconscient, c'est une espèce d'allégorie qui Freud de l'inconscient. Les gens préfèrent prendre des allégories pour des vérités plutôt que pour des allégories, surtout les freudiens. Mais quand on lit ce qu'il écrit dans les années 20, Freud, il nous dit la pulsion de mort, elle est dans la cellule. C'est-à-dire que la vie et la mort sont l'avers et le revers d'une même médaille. Il dit, la cellule qui est vivante, elle ne veut qu'une chose, retrouver l'état d'avant la vie. Ce qu'il appelle le principe de nirvana. Ce que veut la vie, c'est l'état d'avant la vie. En gros, la vie, elle travaille à la mort. Il y a ça dans la peinture de Robert aussi. Et Nietzsche le sait. Pas pour avoir lu Freud pour les raisons chronologiques que vous imaginez, mais parce que Freud a pillé Nietzsche, mais il ne le dit évidemment pas. Mais Camus était un nietzschéen critique. Le dernier Nietzsche est totalement, je dirais, bouddhiste ou hindouiste, quelqu'un qui dit l'éternel retour des choses est une vérité, une évidence. Ce que nous vivons tout de suite, nous l'avons déjà vécu et nous le revivrons. vous vous êtes déjà trouvé assis dans cet escalier et vous vous retrouverez assis dans cet escalier, vous à cette place et moi à la mienne, et moi en train de dire ce que je dis. Et ça, ça se jouera éternellement. Nietzsche, c'est l'éternel retour des choses. Donc voilà, l'éternel retour des choses, c'est une vérité métaphysique qu'il a ressentie comme telle. Camus ne ressent pas ça. Il n'est pas d'accord avec la théorie d'éternel retour chez Nietzsche. Donc, on ne verra plus. Il n'y a pas chez lui de mysticisme en relation avec ces religions-là, la métempsychose, la métensomatose, l'âme immortelle ou ce genre de choses. Il y a chez Robert une philosophie de l'immanence. Une philosophie qui récuse la transcendance. S'il y a la transcendance, elle est dans l'immanence. La transcendance du monde, elle est dans la réalité du monde. Cette toile dont tu disais qu'elle était un peu fétiche chez toi, et qui est effectivement une très grande toile à tous les sens du terme, grande par le format, mais en même temps tout y est, elle s'appelle l'autiste. L'autiste dans la forêt des fleurs. Il y a un immense champ de fleurs, et une tête comme une fleur parmi les fleurs, et vous pourriez presque ne pas la voir en passant rapidement, et vous voyez que il y a ce visage d'un personnage qui est l'autiste. Mais l'autiste, je sais que les parents d'enfants autistes n'aiment pas beaucoup qu'on utilise ce mot-là en dehors de la configuration strictement médicale. Et on peut les comprendre. Les gens comprennent plus qu'on utilise la métaphore du cancer ou ce genre de choses. Donc, et si on va au-delà de la définition stricte de l'autisme, l'autisme tel que Robert le peint, le signale, c'est cette espèce de solitude dans laquelle nous sommes. Nous naissons seuls, nous vivons seuls, nous jouissons seuls, nous mourons seuls, nous souffrons seuls. Nous disparaissons tout seuls et on vit sa mort tout seul. On ne peut pas la vivre sa mort par procuration. Et quand quelqu'un souffre et qu'on aime ce quelqu'un qui souffre, on ne souffre pas sa souffrance. On souffre du spectacle de sa souffrance, mais on ne souffre pas sa souffrance. On est enfermé en nous. Donc la vérité du monde, c'est l'autisme. Chacun est enfermé dans lui-même, comme dans une prison. Et effectivement, il faut composer avec soi, et ne composer qu'avec soi. Et bien cette vérité de Robert, c'est aussi la vérité d'Albert Camus. C'est la vérité de celui qui découvre la puissance de son corps. Pour Camus, c'est la tuberculose à 17 ans. Quand on sait qu'on est tuberculeux, ça veut dire qu'on n'a pas vécu longtemps et que la vie est comptée. Eh bien, on sait que le corps est la seule voie d'accès au monde. Que c'est la seule mécanique qui soit susceptible de nous raconter le monde tel qu'il est, et ensuite on comprend que chaque seconde perdue est définitivement perdue, et qu'il faut une espèce de puissance d'exister, pour utiliser l'expression de Spinoza, une puissance d'exister qui seule donne son sens à la vie. Alors il y a de la puissance d'exister chez Robert. Il suffit de voir son âge et son œuvre. Il y avait de la puissance d'exister chez Camus, il suffit de voir l'âge auquel il meurt, et l'abondance d'œuvres qu'il nous laisse. Je ne parle pas de chef-d'œuvre, je parle d'œuvre. Quand on est l'homme qui a écrit le mythe de Sisyphe et l'homme révolté, le mythe de Sisyphe, il a entre 25 et 30 ans. Et la même chose pour l'étranger ou pour la peste, ce sont des chefs-d'œuvre qui sont écrits. Il y a des chefs-d'œuvre dans l'œuvre de Robert. Ce ne sont pas des choses qu'on dit du vivant, bien sûr, mais on le voit bien qu'il y a des chefs-d'œuvre, qu'il y a des œuvres qui rentrent dès à présent, tout de suite, dans l'histoire de la peinture occidentale, de la peinture occidentale, hein, c'est-à-dire de Lascaux jusqu'à aujourd'hui et plus tard. On le sait bien. Parce qu'il a capté une vérité universelle avec une histoire particulière. Cette histoire particulière, c'est effectivement son corps, ses souffrances, sa douleur, etc., à Robert, et puis cette compréhension qu'effectivement, la nature de chaque existence est autiste. Nous sommes dans l'autisme. Mais regardez cet autisme dans cette forêt de fleurs. Elle est magnifique, c'est une espèce de jungle extraordinaire, c'est aussi un paradis, peut-être artificiel, si on veut, il est même un peu psychédélique de temps en temps dans le chromatisme, ce paradis-là, mais c'est le début du monde. C'est le début du monde avec le premier homme. Titre de Camus, comme vous le savez, son dernier livre. Et il y a effectivement des passerelles. Il y a des passerelles plus grandes entre Robert Combas et Albert Camus qu'entre Robert Combas et Jean-Paul Sartre, ça me paraît évident, ou d'autres philosophes. On pourrait réfléchir, mais je ne pense pas, par exemple, que pour parler de philosophie, j'ai fait un texte sur Adami, par exemple, la peinture d'Adami, elle est une peinture de la déconstruction. Elle est une peinture d'Héridienne, la peinture d'Adami, ça me paraît évident. Ce n'est pas le cas de Robert. Il n'est pas dans la déconstruction cérébrale, talmudique, mentale, ce genre de choses, pas du tout. Il est dans, je vous disais tout à l'heure, dans l'art de découper dans le monde des espèces de fenêtres pour nous montrer la vérité du monde dans sa splendeur. Robert, il nous dit, comme Camus, il y a une splendeur au monde. Tâchez de regarder. Il y a même une splendeur à la guerre, d'une certaine manière, puisqu'elle est, elle est la manifestation de la vie, dans ce que je disais tout à l'heure, la vie comme probation du vivant jusque dans la mort, ou la vie comme ce qui veut le contraire de la vie, c'est-à-dire le principe de nirvana, le néant qui nous habite et qui est au cœur de nous-mêmes et vers lequel nous allons, nous en venons du néant, nous y allons vers le néant, entre deux il n'y a pas grand-chose, il y a juste la vie, il y a juste le monde, il y a une beauté du monde, il y a une vraie beauté du monde dans la peinture de Robert, il y a une vraie beauté du monde chez Albert Camus, il y a une invitation à l'urgence de vivre chez Camus, il y a une invitation à l'urgence de vivre chez Robert. Tout ce sperme, il y a partout en permanence les sexes en érection, les vulves de femmes magnifiques présentées comme des jardins superbes, comme c'est la plupart du temps, et cette invitation à faire de telle sorte que tout ça se parle, se dise des choses pour que la vie continue, que la vie soit, qu'il y ait cette espèce de bruissement. Elle chante aussi la peinture de Robert. On pourrait presque mettre de la musique sur chacune des peintures. Cet autiste dans la forêt de fleurs, on entend bien quel type de musique ça peut produire. Je sais pas, je songe à des scènes wagnériennes, par exemple, des voitures dans la forêt, on entend cette musique-là. Et des scènes de guerre, on voit des choses très, très martiales, des musiques baroques qui sont des arrivées de cercueil, des arrivées de roi, c'est un peu la même chose. Il y a dans la musique, dans la peinture de Robert, de la musique, comme il y a dans sa musique, de la peinture. Vous avez vu, j'espère, vous reverrez ou vous verrez, la salle où on le voit en concert, et c'est mieux de le voir en direct, il y a toute cette scénographie qui est aussi comme un tableau, comme une peinture. Il y a des ombres chinoises, il y a des couleurs, il y a des jeux de couleurs, et c'est fait, m'expliquait Geneviève, dans une vraie économie de moyens. C'est vraiment très simple, avec une toute petite technique, utiliser un sans montage, avec une petite vidéo posée là. Et puis, il y a ce jeu qui se joue, là, comme je disais tout à l'heure, qu'avec sa peinture, il découpe des cadres dans lesquels il nous invite à voir le monde dans sa couleur, dans son chromatisme, dans sa vitalité, dans sa puissance, dans ses vibrations, etc. On a la même chose avec l'écran, dans lequel des choses se disent. De la chanson, mais de la peinture, un jeu avec la lumière, un jeu avec les couleurs, de la danse aussi, beaucoup. Et toutes ces choses-là disent la même chose. Et ça dit la même chose que Camus. Je ferai la conclusion de ma péroraison, mais vous noterez après. Il y a effectivement un même monde, il est musical, la musique c'est Dionysos, on reste chez Nietzsche. Il y a effectivement des peintres apolliniens et des peintres dionysiens. Dans le premier livre qui fait paraître en 1862, la naissance de la tragédie, Nietzsche oppose ces deux catégories, sans chez Goethe. Enfin, c'est Nietzsche qui leur donne la popularité. Il dit qu'il y a de l'apollinien. Il y a du dionysien. L'apollinien, Apollon, c'est le dieu de l'ordre, de la forme, de la mesure, de la construction, des mathématiques, des chiffres, etc. Et puis Dionysos, c'est le dieu, c'est Robert, hein, c'est sa peinture, elle est totalement dionysiaque. C'est le dieu de la danse, le dieu de l'alcool, le dieu des pampres, le dieu de la vigne, le dieu du sexe, le dieu de la sexualité, de la fécondité. C'est le dieu de la musique aussi, Dionysos. Il est Robert Dionysos, il est dionysien, il est dionysiaque. Sa peinture l'est également. Camus l'était. Également. Et se demander comment on pouvait être dionysiaque dans un monde tellement apollinien.